les foins, plein de petits creusillons, qui sont autant de gitons d'amour que les couples en contravention. On se met comme ça, sur le parcours. Les draps sèchent et les foins sentent bon. Ils sentent la chair de fille et de mâle et guerdillent encore des frissons du gars quand sarre la garce qui râle. Les draps sèchent. Et tout en séchant, les foins qui sentent bon, les parfument. Les vlas secs, ou sous les couchants, ils seront à leur place de coutume, dans les grands lits, aux grands rideaux. Et à ce soir, la chandelle soufflée, elle met de femme, encore tout vieillot, sentira son cœur se réveiller. Le charquier ira retrouver la bonne, et la bonne le coursera point. Le porcher regrettera d'avoir personne, parce que les draps sentiront.
Chers petits amis, nous arrivons à ce moment de la soirée où, livrant le vrai fond de sa pensée, l'auteur-interprète va faire basculer le spectacle dans le mauvais goût le plus sûr. En effet, si tout jusqu'ici n'a pas été strictement ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Du moins, n'a-t-on pas encore abordé ce sujet scabreux entre tous qu'est le plaisir masculin. L'homme, c'est inconnu. Voilà la question qui se pose à mon esprit, et je sais qu'on va me trouver vulgaire et dérisoire, je me demande, à l'aube du troisième âge, on a l'âge de ses sphincters, je me demande si on s'est assez souvent, assez longuement, assez valablement occupé de ma bistouquette. Et quand je dis « on », pour une fois, je ne parle pas de moi-même et de mon agitation permanente, l'artiste doit savoir quelquefois tourner son regard vers les autres. Pour placer cette question oiseuse dans un contexte qui ne la sauvera pas, il faut vous dire que j'ai eu 17 ans en 1968 et que si ce que l'on a appelé les événements de mai a beaucoup fait pour la promotion des femmes, du Larzac, des CRS et des étudiants, il faut bien reconnaître que la bistouquette a été la grande oubliée de ce remue-ménage socioculturel. Qu'on me comprenne bien. Je n'estime pas du tout qu'il y ait à revenir sur des acquis socio-féminins aussi évidents que le salaire égal et le vibromasseur. Des proches avaient sûrement raison de faire goûter ses pinards à son épouse, et il m'arrive de passer le volant à la mienne. Il y a des choses qu'elles peuvent apprendre. Si par ailleurs je reste résolument opposé au droit de vote pour les Appenzelloises, ça n'a rien à voir. C'est simplement des emmerdeuses suisses allemandes, elles peuvent très bien se la coincer un dimanche sur 12 et laisser leurs gaillards aller jouer avec leurs épées. Mai 68 a frappé la Suisse de plein fouet en juin 1971. En Suisse, on se lève tôt mais on se réveille tard. J'avais 20 ans, je vivais avec ma première gonzesse et le mercredi soir, elle sortait avec ses copines pour évoquer leur féminitude. Moi, le jour du 1er mai, j'avais essayé de me glisser dans leur rang pour le défiler, voyez-vous, par sympathie, comme ça. Et puis, devant leur manque d'enthousiasme pour les slogans, j'avais essayé de lancer « Un zizi pour faire pipi !» Mais j'étais pas dans le ton. À l'époque, souvenez-vous, pour Américains, on disait Yankees, pour branleuses, on disait féministes, et pour branleurs, on disait phallocrates. Le clitoris était associé au niveau de l'image, à quelque part, si tu veux, au sable des plages récemment découvertes sous les pavés, alors que la bistouquette était rabaissée au rang de symbole du pouvoir phallique, le plus souvent incarné par le petit bâton blanc accortement manipulé par les représentants des forces de l'ordre. Eh bien là, je m'insurge. Chers petits amis, je m'insurge. Et ceux qui, ce soir, ici, s'emmerdent avec moi, s'insurgent avec moi, et nous nous adressons aux spectatrices, et pourquoi pas aux institutrices, pour leur dire que nous n'avons rien contre l'idée de rendre hommage aux replis les plus exquis de la féminité, mais quand vous avez passé un quart d'heure de temps à vous mettre en quatre pour pas grand-chose et que vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'elle branle ?» La réponse est là. Cinglante et cruelle évidence, elle ne branle rien. Eh bien là, chers petits amis, je m'insurge. Oui, je m'insurge. Loin de moi l'idée de vouloir brandir ma zigounette comme le porte-drapeau d'aucune espèce de revendication. Mais qu'on songe tout de même avec un peu d'attendrissement à la souplesse, à la douceur, à la durabilité d'un prépuce. Quiconque a été propriétaire d'une Renault 12 reconnaîtra que le prépuce est mille fois plus fiable qu'une durite de radiateur. Vous êtes bon. Vous êtes bon pour la changer tous les 30 000 km et je compte largement. Le prépuce est une chose exquise et patente. À votre bon cœur, mesdames, un nom baisant vous remercie.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. We'll be right back.
Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France, bonjour et bienvenue dans l'émission Médias et Antifascisme sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Il est 11h passé de 41 minutes et on est en retard, évidemment, on se refait pas. Hein. C'est... Ah, attends, j'ai pas allumé ton micro.
Et voilà.
Là, oh bah une seconde, on prend le temps de s'installer, nous c'est comme ça, on fonctionne... C'est le problème des anarchistes, des libertaires et autres gaucho-wokistes de notre espèce, c'est que voilà, la ponctualité, hein, c'est...
Ouais. Et le sérieux aussi.
Ah, on est sérieux, c'est juste que... qu'est-ce que vous voulez? Bon, bonjour à tout le monde, bienvenue. Médias et antifascisme, c'est l'émission contre l'extrême droitisation ou la médiatisation de l'extrême droite. Hein, ça marche dans les deux sens, tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 sur votre radio préférée. Effectivement, là, on est le 12 juin. Avant de vous présenter le thème du jour, je vous rappelle que donc on est là tous les deuxièmes vendredis du mois, 11h30. Vous pouvez nous écrire sur Facebook et Blue Sky via Médias et Antifascisme tiré du 6 Radio Libertaire 89.4 FM en IDF, hein, c'est comme ça, voilà, en IDF, sur X. Alors on a un petit problème avec notre compte X, hein, on n'y a plus accès, mais c'est pas parce qu'on a été bloqué, mais bref, on en reparlera. X, c'est ce qui s'appelait Twitter avant, hein, c'est le fameux réseau de notre milliardaire préféré, Elon Musk, bien sûr, pour ne pas le citer. Donc vous pouvez nous joindre via X, quand on aura retrouvé le compte, on vous répondra si vous nous écrivez, c'est @media au pluriel tiré du 8 Antifa au singulier. Sur Instagram, vous pouvez nous écrire via @media-du-8 et antifascisme-du-8-RL-du-8, c'est le tiré du bas, hein, au cas où. Sur Mastodon, vous pouvez nous écrire, on est sur le serveur todon.eu via @media au pluriel tiré du 8 et antifascisme-du-8-RL-du-8-IDF. Et si vous voulez nous envoyer un mail, ça se fait à l'adresse médias et antifascisme, médias au pluriel, hein, @protonmail.com. Et si vous aimez encore écrire par courrier, à la plume, je ne sais pas.
Pigeon voyageur.
Oui, c'est exactement ça, au pigeon voyageur. Vous pouvez nous envoyer, vous pouvez nous écrire en fait, au 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et je rappelle que le 145 rue Amelot, c'est l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, qui est d'ailleurs ouverte de 13h à 19h30 du mardi au vendredi, de 10h à 19h30 le samedi et de 13h à 19h30 le dimanche. Voilà, donc si vous voulez nous écrire, vous pouvez donc nous envoyer un courrier, comme je viens de vous le dire, au 145 rue Amelot, 75 011 Paris, mais voilà, vous pouvez aussi y aller aux horaires que je viens de mentionner, librairie du Monde Libertaire Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Radio Libertaire, comme vous le savez, c'est une radio associative, on a besoin d'argent.
Beaucoup.
Beaucoup, oui.
En vrai, oui. Largement. Ah, beaucoup.
Non, beaucoup. Non, oui.
Donnez. En fait, donnez.
Donnez, bien sûr. Alors, attends, je vais baisser un peu ton micro.
Voilà.
Tu t'es trop approché de l'antipop.
Non, mais là, c'est bon, là.
Oui, non, mais je rigole, de toute façon.
Mais voilà.
Pour nous donner plein d'argent, parce que, voilà, on déborde de charges en tout genre.
Et pour la révolution, camarade.
Non, mais en vrai, oui. Alors, si vous voulez donner, si vous voulez nous donner de l'argent, c'est très simple. C'est à destination de la radio, hein, de notre chère station de radio, Radio Libertaire. Vous pouvez nous envoyer donc un don via la rubrique financement nous soutenir du site radio-libertaire.org. Hein, vous allez dans la rubrique financement et dans le menu juste en dessous, vous cliquez sur nous soutenir. C'est sur radio-libertaire.org. Vous pouvez y télécharger le bon de souscription et vous le retournez complété et vous l'envoyez au 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Ou alors vous pouvez aussi poster un chèque à l'ordre de DMC, pareil, hein, 145, vous l'envoyez au 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Donc voilà, vous pouvez soit être prélevé, soit nous envoyer un chèque si vous souhaitez nous faire un don ponctuel ou mensuel ou même annuel, je crois, ça marche aussi. Dans tous les cas, toute contribution est la bienvenue. 11h passées de 46 minutes sur Radio Libertaire. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. D'abord, donc on accueille aujourd'hui, on est trois hein, aujourd'hui à l'antenne. Toi, tu es là, cher camarade. Alors,
Johan.
Voilà, Johan. Merci d'être là. Fidèle au poste depuis. Grossièrement, tu fais des émissions, tu participes aux émissions depuis un peu plus d'un an. Oui. Et tu es revenu avec nous depuis février. Donc, fidèle au poste. Tu étais même là au mois de décembre pour notre émission sur l'homonationalisme.
On s'est beaucoup amusé.
Bah, amusé, oui. Et puis, on n'a pas fait que s'amuser.
On a été très sérieuse, il n'y a pas de souci, on a fait le travail. Ouais. Mais il y a un peu de fun.
Oui, c'est indispensable. Et alors, excuse-moi, parce que j'ai présenté d'abord Johan avant de te présenter toi. Toi, c'est donc. Alors. Je n'ai peut-être pas donné. Comment veux-tu qu'on t'appelle, l'invité, cher invité au téléphone ?
Comment je veux qu'on m'appelle ?
Ouais.
Vous pouvez m'appeler Solène, du coup.
Eh bien, bonjour Solène. Alors, je pense que.
Casque, je l'entends pas.
Ah, alors, tu n'es pas obligé de chuchoter, tu peux me le dire directement. Hein,
oui,
donc,
je ne l'entends pas dans mon casque.
Alors, tu n'entends pas Solène dans ton casque. Alors, ça, c'est un problème. Je ne sais pas du tout pourquoi. Normalement, il n'y a pas de problème avec le téléphone. Comment ça se fait ça ? C'est du direct, hein, vous voyez, on fait ce qu'on peut. Tu n'entends pas Solène dans ton casque. Tu l'entends là ?
Allô, allô, m'entends-tu ?
Tu l'entends ou pas, Johan ?
Non. Bon, envoie un casque.
Mais tu m'entends, moi ?
Non.
Ah, bah.
Ah.
Ah, je l'entends très bas. Ah non, je l'entends de l'autre côté.
Bam, 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 bam. C'est bon, t'entends quelque chose là ou pas ? Bon, alors.
Allô, allô ?
Non, mais moi je t'entends, mais bon. Le problème c'est que Johan il t'entend pas. Comment ça là tu t'entends personne, ni moi, ni
Solène. Une toute petite voix.
Alors là, on va se débrouiller, on va faire quelque chose, on va intervenir là. Mais enfin, c'est vrai que c'est curieux parce que. Au pire, je te donne un autre casque. Désolé, hein, on est en direct. Et on est bénévole, donc on fait ce qu'on peut. Je te passe un autre casque, branche-le sur une autre prise. Ouais. Et puis, moi, je sais pas. De mon côté, normalement, tout est fait pour que tu puisses entendre Solène. Et puis, je peux pas t'allumer les enceintes parce que...
t'inquiète.
Bon, on va prendre le temps de t'installer. Alors, en attendant, peut-être qu'on peut demander à Solène de se présenter rapidement, Johan. Donc, Solène, toi, tu es là, car on va... Alors, avant de rentrer, quand même, avant de te présenter, aujourd'hui, le thème du jour, ça va être le planning familial, un peu comme là, il y a un Larsen.
C'est bon.
Est-ce que tu entends ?
Oui, mais moins fort.
Bonjour
Solène.
Enchantée. Heureuse qu'on s'entende.
Oui, moi aussi, mais moins fort.
C'est bon là ? Oui, parce que pour les personnes qui ne sont pas avec nous en studio, enfin, du coup, pour les personnes qui connaissent pas notre studio, faut savoir que votre humble serviteur est à la réalisation et c'est votre serviteur qui règle le volume des casques de tout le monde, le mien comme celui des personnes qui sont présentes en studio. Et du coup, si je veux, je peux en mettre plein les oreilles à Johan et c'est drôlement rigolo, je vous le cache pas.
Parce que je suis très expressif.
Non mais en fait j'avais mis fort parce que là je comprenais pas pourquoi tu nous entendais pas, donc j'ai essayé de, enfin voilà. Mais du coup là tu entends Solène et tu m'entends moi aussi, cher ami. Ouais, ok, c'est super. Donc programme du jour, le planning familial. On en a, si vous étiez avec nous le mois dernier, vous avez pu nous entendre à ce sujet. On en avait parlé parce que on avait fait un peu le lien avec le colloque de l'Institut Iliade, le fameux institut pour la longue mémoire européenne. Hein, qui est en fait une émanation de la nouvelle droite historique. Il y avait d'ailleurs Alice Cordier, là, du collectif Némésis, qui était présente à ça, et on en a parlé, on en a rapidement parlé, parce que, alors, autant nous, on parle de la médiatisation, mais on parle aussi de la sous-médiatisation, voire de la non-médiatisation, et au final, la seule chose qui a été vraiment médiatisée, mais la médiatisation, c'est une chose, effectivement, qui est liée à tout un de questions sociales de façon générale, mais là, pour le coup, le colloque de l'Institut Iliade a été relayé par, on va dire, quelques médias d'extrême droite dont on a l'habitude d'entendre parler, Frontières, TV Liberté, Radio Courtoisie, et donc, au final, bon, cet événement, il a eu lieu en plein milieu de Paris, hein, c'était, je ne sais plus exactement,
à la maison de la chimie.
Voilà, c'est ça, à la maison de la chimie, c'est juste derrière l'Assemblée nationale, et ça a eu l'air de déranger personne, à part Thomas Porte, le député de la France Insoumise, qui a demandé au préfet de police de Paris et au ministre de l'Intérieur d'interdire cet événement, et je pense que son courrier est passé très vite à la corbeille. Donc, effectivement, cet événement a eu lieu, c'était au mois d'avril, Alice Cordier du collectif Némésis était là, ce qui commence d'ailleurs à être suspect, hein, on ne comprend pas forcément pourquoi ces gens sont encore en liberté, je ne sais pas, enfin je pose la question, peu importe, c'est pas le sujet du jour, il me semble, mais bref, et donc on avait parlé du colloque de l'Institut Iliade, parce que déjà ça a eu lieu en plein milieu de Paris sans que ça dérange personne, et on avait fait le lien avec le 70e anniversaire du planning familial qui a lieu donc cette année en 2026, et effectivement on avait pu voir par exemple que le journal du dimanche, propriété du fameux groupe Bolloré, avait dénoncé le planning familial wokiste, le planning familial qui, selon Ludovine de la Rochère, hein, l'ancienne présidente de la Manif pour tous, qui s'appelle aujourd'hui le syndicat de la famille, Ludovine de la Rochère disait que le planning familial empêchait, je cite, qu'est-ce qu'elle disait déjà ? Ah oui, elle empêchait les femmes qui voulaient s'occuper de leurs enfants de se consacrer à cette activité. Et point final, c'est tout terminé. Voilà, je t'entends rigoler, mais effectivement, je pense qu'il y a de quoi rire. Mais voilà, pas plus de justification, pas plus d'arguments, si on peut dire. C'est un peu lâché comme ça. Et on avait aussi parlé d'une espèce de philosophe un peu nébuleuse. Hein,
Anne Trébi ?
Non, pas Anne Trébi. Non, c'est encore quelqu'un d'encore moins connu. Probablement une disciple de Michel Onfray. Marie Le Borgne-Lucas, pour ne pas la citer, qui publie des livres dans des maisons d'édition très peu connues, mais diffusées par le groupe Hachette. Donc, c'est des maisons d'édition low cost, on peut dire comme ça, mais comme elles sont diffusées par Hachette, propriété de Bolloré, forcément, il y a une visibilité démesurée. Et pour finir, d'ailleurs, on avait évoqué la fameuse agence Progressif Média qui développe un site là qui s'appelle fabuleuseaufoyer.com. Et il y a justement cette philosophe, Marie Le Borgne-Lucas, qui écrit sur ce site. Et Progressif Média, si jamais vous vous en rappelez, et après on passe au sujet du jour. Progressif Média, c'est notamment l'agence qui s'amuse à faire qui avait fait des copies du site de Reporters sans frontières, qui est un peu spécial, qui fait genre des cyberattaques ou des récupérations de noms de domaines, des choses un peu dignes de. Enfin, c'est du brigandage, quoi. C'est de la piraterie du net, dans un sens. Et ils avaient créé des faux sites de Reporters sans frontières au moment où le Conseil d'État avait enjoint à l'ARCOM de mieux réguler en fait le paysage audiovisuel, et ça concernait bien évidemment à ce moment-là CNews et C8, les chaînes du groupe Bolloré toujours. Donc voilà, Progressif Média, c'est en quelque sorte des pirates ou des brigands. On va passer au sujet du jour, t'inquiète pas, je vois que tu me fais signe, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a?
Je te fais signe, c'est pas pour que tu le dises à l'antenne. Peut-être on peut vous laisser notre invité se présenter.
Dis tout de suite que je monopolise l'antenne et
non,
que je suis bavard.
Non, voilà, je ne dis rien, je me tais.
Je rigole. Alors, du coup, voilà, venons-en à toi, Solène, et au planning familial des Alpes-Maritimes. Je vais te laisser te présenter, et après, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les problèmes financiers que peut rencontrer le planning familial de façon générale, certaines antennes en particulier, le tout en fait corrélé à des polémiques médiatiques qui datent maintenant au moins d'une dizaine d'années. Hein. On peut quand même, même si le planning familial, je pense, a toujours été plus ou moins la cible d'attaques diverses et variées, il y a quand même un genre de tapage médiatique qui est créé, notamment par des titres de presse dont on va parler dans quelques minutes là. Mais effectivement, depuis le début du premier mandat de Macron, il nous semble qu'il y a quand même une offensive de la part de certains titres de presse un peu à la ramasse là et donc ça fait 10 ans que ça dure, si on peut dire. Donc on va revenir sur tout ça, sur les problèmes financiers que peut rencontrer le planning familial, notamment dans certains départements. Mais avant toute chose, voilà, Solène, donc tu es du planning familial des Alpes-Maritimes. Je te laisse te présenter et on va parler un petit peu de ton antenne aujourd'hui dans notre émission. Solène, c'est à toi.
Eh ben déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur votre antenne. Donc moi, je suis Solène Gomez-Correia. Je suis chargée de communication et d'événementiel au planning familial des Alpes-Maritimes. Et puisqu'on parlait de colloque, la semaine dernière, j'étais à un bien meilleur colloque qui était donc le colloque des 70 ans du planning, qui malheureusement n'a pas eu la même visibilité médiatique que celui dont on parlait juste avant, qui s'est tenu à Paris en avril. Voilà, et puis pour présenter un petit peu l'association des Alpes-Maritimes, nous, le planning familial des Alpes-Maritimes, on existe depuis très longtemps, on fait partie des premiers plannings familiaux à avoir été fondés. Le premier, c'est donc Grenoble en 56, et nous, on s'est implanté à Nice en 63. Donc voilà, on est une association très ancienne, mais aussi une assez petite structure avec assez peu de moyens. Donc les questions de financement d'une part et d'attaque de l'extrême droite d'autre part, du fait du territoire dans lequel on est implanté, ça nous connaît.
On peut te dire aussi, est-ce que je peux rappeler ton intervention pendant ce colloque donc de la semaine dernière, qui était s'appelait « À la frontière des droits, l'engagement des plannings familiales, des Alpes-Maritimes auprès des personnes migrantes dans un contexte frontalier et conservateur ». Et du coup, d'après ce que j'ai compris, d'ailleurs, on peut aussi remercier notre camarade Emma, qui est pas là aujourd'hui, mais qui nous a grandement aidé et mise en relation avec toi et avec d'autres personnes. Donc Emma qui a aidé à préparer cette émission et qui est là avec nous en esprit. Et du coup, pour revenir sur le planning familial des Alpes-Maritimes, on peut dire que, bien que vous soyez une vieille association, vous êtes toujours à la pointe de la lutte contre les discriminations, oppressions systémiques qui touchent les femmes, les minorités de genre et les personnes dotées d'un utérus.
Oui, totalement. Moi, pour l'éclairage un peu personnel, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu travailler au planning familial. Et je pense que c'est le cas d'énormément de personnes qui sont salariées ou bénévoles au planning familial. C'est que c'est probablement la seule association féministe actuellement en France à avoir une telle ancienneté. Donc quand même une visibilité, un poids dans le paysage associatif français. Je pense que à peu près tout le monde en France, quand on dit planning familial, les gens savent à peu près de quoi on parle. Et pourtant, contrairement à d'autres associations qui ont un peu la même ancienneté, le planning familial a vraiment eu la capacité de s'adapter aux évolutions du monde militant, de la réflexion féministe, et donc notamment dans ma contribution au colloque, je montre comment de manière assez précoce le planning familial s'est posé la question de la convergence des luttes, de l'intersectionnalité, de comment développer une pensée féministe et une pratique féministe qui soit au fait des dynamiques de pouvoir et des rapports de force dans la société. Et notamment, on a été très visible au niveau de notre soutien à la communauté LGBT, notamment à la communauté trans, ce qui est aussi bien sûr aux personnes exilées, en particulier dans le cas de l'Association des Alpes-Maritimes. Et c'est ces positions-là qui ont fait que, d'une part, le planning est toujours à l'avant-garde des luttes féministes, et d'autre part, que le planning est vraiment la bête noire des mouvements fascistes, réactionnaires, des intégristes de tous bords. Voilà. Ils nous apprécient pas trop, on va dire.
Oui, parce que je me suis tapé les tribunes de l'Observatoire de la Petite Sirène, et j'ai lu nos amis, entre guillemets, qui du coup attaquent médiatiquement, là c'était via Le Point et Marianne, le planning familial, donc à base de... En fait, ils peuvent plus dire, et elles peuvent plus dire le lobby gay. Du coup, ils vont parler de militance LGBT. Donc, je cite dans le texte. Et elles vont parler vraiment. Il y a une sorte de complot trans. Hein, c'est assez inscrit et tout. Comme quoi, en fait, mais comme plein de gens d'extrême droite qui reprennent le comment dire vraiment ce discours de avant les LGBT, elle était gentille. Mais il y a une déviance avec les théories du genre, avec la transidentité.
C'est exactement le même discours qui est tenu sur le planning. C'est que fondamentalement, en France, on a cette chance qu'on est probablement un des pays du monde où c'est le plus difficile de remettre en cause le droit à l'avortement. Parce que, en France, on est très attaché à ce droit et aux combats qui ont permis de l'obtenir. Donc, le planning familial d'avant... Bon, c'était bien parce que ça a permis le droit à l'avortement, mais le planning, c'était mieux avant, et maintenant, c'est que des wokistes qui n'aident plus les femmes, qui veulent, porter un agenda wokiste, des théories de genre, etc.
Et surtout, faire transitioner les enfants.
C'est vraiment leur truc préféré. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'il y a le plus de désinformation de l'extrême droite sur le travail qu'on fait en termes d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce qu'on appelle donc les VARS. Ça, c'est vraiment en ce moment leur cheval de bataille, quoi. Hein. Ça et les questions de transidentité, c'est sur ça qu'ils font leur beurre et c'est sur ça qu'ils nous attaquent, quoi.
Oui, parce que ils gagnent en visibilité médiatique en dénonçant des dérives entre guillemets, des choses comme ça. Mais le but, c'est de gagner en visibilité et d'avoir des dons et le plus d'argent possible, et aussi d'être le plus offensif possible pour devenir une chouchoute, une association chouchoute, une personnalité chouchoute d'un milliardaire d'extrême droite, en fait, ou de plusieurs.
Totalement.
Et voilà, et on aimerait, je pense, rappeler à l'antenne que ce qui rend malheureux les personnes trans en transition, surtout les personnes adolescentes, c'est pas forcément du fait de leur transition, c'est du fait des gens qui leur empoisonnent leur transition et qui les menacent de mort, qui les pourrissent, que ce soit dans la cellule familiale ou en dehors. Voilà. Je pense que c'était...
Totalement. Et pour revenir sur ce qu'on disait sur la médiatisation de leur délire, il faut savoir que c'est les milieux réactionnaires d'extrême droite, ils sont extrêmement rodés sur la communication médiatique, numérique. Ils ont une capacité, en fait, à visibiliser leurs actions. Alors, ils vont venir dans une manifestation ou devant un planning et ils vont provoquer une situation de confrontation que ensuite eux, ils vont filmer, qu'ils vont tourner un petit peu à leur sauce. Et en fait, ce qu'ils font, et nous, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est qu'ils publient ça sur les réseaux sociaux. De leurs réseaux sociaux, c'est transmis dans des boucles réac un peu obscures. De ces boucles-là, ça va sur les médias, encore je suis très gentille en leur accordant ce terme, les médias néo-fascistes un peu obscurs en ligne, de type Français de souche, là où ouais, je sais pas
F,
quoi.
F de souche.
Puis ça va. Ouais, voilà, c'est ça, F de souche et compagnie. Puis ça va aller dans Frontières, toute cette galaxie, voilà, on disait Radio Courtoisie, ouais. etc. Qui ne sont pas des médias grand public, mais qui permettent justement de faire monter ces choses-là pour qu'après ce soit repris par des médias de droite et d'extrême droite, de type le JDD, le Point. Et c'est la technique qu'utilise Némésis, c'est la technique qu'utilise Eros, c'est la technique qu'ils utilisent tous. Et face à ça, des associations comme le Planning Familial, elles sont un peu... désarmé, quoi, parce que malheureusement, on n'a pas le même système de soutien et on n'a pas cette capacité à visibiliser notre discours dans les grands titres de presse nationale, aux heures de grandes écoutes, etc., quoi.
Est-ce qu'il y a eu ces habitudes, là, quand tu parles de, des militants d'extrême droite ou des ultra-catholiques, quand ils viennent devant le planning, par exemple, pour faire une action, pardon, coup de poing, de contre-filmer, par exemple, des militants et militantes du planning, de contre-filmer leur action pour, par exemple, proposter après ce que des camarades AFA font, antifascistes, pardon, font beaucoup dans différentes villes de France, voilà, et après ils repostent ou, et tout, et ça permet de d'équilibrer. Bien sûr, ça enlève pas le fait que ben, vous avez pas la même force médiatique, ouais. et le bah, même écosystème.
Le problème, en fait, c'est que. Bon, nous, on ne s'est jamais retrouvé avec des gens devant notre porte. Heureusement, après, on n'a pas pignon sur rue, donc ça aide. Ils ont du mal à repérer où c'est exactement le planning familial. Par contre, ils sont beaucoup venus dans des manifestations. On a du coup Némésis qui est venu faire une action l'année dernière pendant le carnaval queer. Okay. Et on a Eros qui est venu en mai 2025 pendant le Nice Rainbow Festival, okay. qui se passait autour du 17 mai, la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Et en fait, ce qu'on voit dans ces situations-là, où ils viennent, ils filment, ils se mettent en scène et en même temps, ils jouent un petit peu avec la réalité de manière à ce que ça leur serve, quoi. Mais souvent, en fait, les militants et les militantes, ils sont un peu pris de court parce que c'est des stratégies qui sont relativement nouvelles et qui sont très bien rodées, très bien pensées. Et nous, en décembre dernier, on a rencontré une sociologue qui s'appelle Magali Della Souda. Qui a écrit un bouquin sur qui s'appelle Les Nouvelles Femmes de Droite, et on a eu une discussion avec cette sociologue pour réfléchir justement, comme tu le disais, à des manières de contrer ce genre d'action. Donc, de faire en sorte, quand ils nous filment, de leur poser les bonnes questions. Par exemple, de demander à Némésis, puisqu'elles sont si féministes, ce qu'elles pensent. De la fermeture d'une quantité astronomique de maternité ou des difficultés d'accès à l'IVG pour en fait les mettre en difficulté, quoi. Hein.
Oui.
Mais le problème, c'est que j'ai tendance à penser que ce genre de choses, ça ne fonctionne qu'avec des gens qui ont une certaine honnêteté intellectuelle, ce qui n'est absolument pas le cas de ces collectifs, Eros, Némésis, le syndicat de la famille, etc. Et malheureusement, on peut faire ce genre de choses-là. Nous, ça nous permet d'avoir un contre-discours, d'apporter des contre-arguments pour pas que ce soit eux les seuls à parler. Mais le problème, c'est que, bah, par exemple... quand on a été pris pour cible par Eros, La seule couverture médiatique qui a eu vraiment où il y a des journalistes qui sont venus nous parler, c'est une couverture médiatique de radio locale en fait. Donc la visibilité qu'on peut avoir en passant à France Bleu n'est pas la même que celle qu'ils peuvent avoir en passant à Frontières et puis après c'est repris, etc. quoi, hein. Donc ça permet de, quand on produit un contre-discours par rapport à ces choses-là, ça permet quand même de désamorcer un certain nombre de choses, mais ça règle pas le problème dans sa globalité, qui est que eux ont des moyens. Eux ont des fonds, ils ont des subventions privées qui sont assez conséquentes. Ils ont les moyens d'être visibles là où nous, bah, en fait, outre la question financière, on n'a pas que ça à faire, en fait.
Ouais. Vous avez
nous, des activités, on est dans des missions d'utilité publique, avec des publics qui parfois sont très vulnérables et tout. On préfère s'assurer qu'on peut mener nos actions auprès de ces publics-là plutôt que de perdre notre temps à parler à des gens qui, de toute façon, n'ont aucune honnêteté intellectuelle, quoi. Hein.
Oui, et en fait, leur but, de par ces actions médiatiques, c'est de ralentir, empêcher aussi, en plus de marginaliser... le planning et les féministes et les militants et militantes pour l'intérêt général et commun et pour les droits humains, en fait.
Totalement, totalement.
Et en fait, il y a aussi un phénomène où eux se démarginalisent et nous, en partie, enfin, je dis nous, hein, nous général, mais on est en partie marginalisés ou alors, bah, comme tu as dit, bah, on a tellement d'activités à faire. Et pour les gens de droite qui nous écouteraient, croyez-nous, les gens de gauche et les gens pour les droits humains travaillent énormément. Enfin,
ouais, vraiment.
Vraiment. Genre,
si vous cherchez de la valeur travail, venez par chez nous. Hein.
Vraiment, venez voir, faites un stage d'observation de 3 jours. Au planning, voilà, comme ça, peut-être, voilà, vous qui nous parlez tout le temps que c'est nous les censeurs.
Peut-être qu'ils nous ferons une Sarah Salman, voilà.
Ouais, c'est ça. Oui, faites une Sarah Salman, venez en stage d'observation.
On vous le souhaite.
On vous le souhaite, mais ça l'a un tout petit peu changé, hein, Sarah Salman.
Bah, quand même, ouais. Hein, je sais pas si t'avais... C'est bien la preuve que quand on regarde la réalité. On arrête d'être dans les vieux pieux et les fantasmes d'une France qui n'existe pas, et ben en fait, on se rend compte que nous autres du milieu associatif et des militants de gauche, on n'a pas si tort que ça, en fait.
Parce qu'on est en accord avec la réalité et la matérialité des choses, quoi. La réalité matérielle.
Exactement.
Du monde économique, politique, social, enfin tout ce qu'on veut, et c'est pas nous qui projetons des choses et qui affabulons, quoi.
Exactement.
Ouais. Vas-y.
Midi passé de 14 minutes, alors je me permets de sigler. Vous savez que l'ARCOM nous demande théoriquement de rappeler sur quelle station de radio on se trouve toutes les 15 minutes. Alors on fait pas ça toutes les 15 minutes exact. Enfin voilà, on fait pas ça pile toutes les 15 minutes. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France dans l'émission Médias et Antifascisme. Et j'aimerais rebondir sur plusieurs éléments dont vous venez de parler. Excusez-moi. Alors, première chose. Alors Magali Della Souda, effectivement, donc qui a écrit, tu l'as bien dit, tu l'as expliqué, Solène, qui a écrit le livre Les Nouvelles Femmes de Droite. Alors, j'en profite pour faire juste une petite parenthèse. Le prochain numéro du Monde Libertaire, numéro de juillet-août, en fait, ce sera un numéro avec un dossier spécial qui va s'appeler Lutte Antifa.
ou lutte antifasciste, je sais plus, peu importe, de toute façon, lutte antifa ou lutte antifasciste, pas de vacances. Et si je vous en parle, c'est parce que notre émission a envoyé un texte qui s'appelle le réseau Atlas, le groupe Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, les bâtisseurs du fémo-nationalisme en France. Et dedans, effectivement, nous citons le livre de Magali Della Souda parce que il a quand même cette, il est très intéressant. Enfin, à titre personnel, je l'ai lu, j'en ai quand même lu une partie. Je lis jamais les bouquins en entier parce que j'ai pas trop le temps. c'est malheureux, mais voilà. Et donc, effectivement, Magali Della Souda a parlé. J'essaie de retrouver le passage, mais a parlé effectivement. Oui, effectivement, voilà. Elle a parlé d'Alice Cordier, notamment dans son livre, parce que. Magali Della Souda met en lumière, elle met en lumière évidemment le rôle du groupe Bolloré, le rôle de la chaîne de télévision C8, le rôle de l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, là, qui a changé de crèmerie, puisque C8 a fermé depuis. Mais voilà, c'est vrai qu'Alice Cordier de Némésis avait commencé vraiment sa carrière médiatique, si on peut dire ça comme ça, en 2021, dans Touche pas à mon poste. Et d'ailleurs, ce qui est quand même extraordinaire, je redis ça, je l'avais déjà dit dans une précédente émission, mais notre émission, en fait, elle est héritée d'une autre émission qui existait en 2020, qui s'appelait Actualité antifasciste, qu'on a dû interrompre assez précocement à cause du Covid.
Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais Siamout, outil antifascistique.
Ah ben oui, évidemment. Mais dans tous les cas, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en 2020, déjà, on parlait de Némésis avec la Jeune Garde Paris, qui était venue à notre antenne à son lancement. Et en fait, Némésis, qui existe depuis 2019, effectivement, on en parlait déjà en 2020. Némésis était quand même moins connu. Et ce que nous disait d'ailleurs, enfin, je me rappelle encore de ça. Ce que disait l'une de nos invitées de la Jeune Garde Paris, c'est qu'à l'époque, Némésis recevait un très mauvais accueil des féministes, parce que Némésis commençait tout juste à se dire féministe, ce qui n'était pas le cas à ses tout débuts, parce que pour faire court, les femmes d'extrême droite n'avaient pas forcément l'habitude de se dire féministe, mais Némésis a pris un peu ce pli, et après, voilà, enfin, il y a eu tout le tapage vraiment favorisé par le groupe Bolloré. Et du coup, voilà, du coup, je fais un peu de promotion pour cet article qui sera qui sera dans le numéro de juillet-août du mensuel de la Fédération anarchiste, Le Monde Libertaire, sachant que nous-mêmes, Radio Libertaire, sommes la radio de la Fédération anarchiste. Donc voilà, quand le Monde Libertaire sortira, je vous invite à aller vous le procurer à la librairie du Monde Libertaire Publico, par exemple, sachant que tous les mois, je crois que c'est tous les troisièmes lundis du mois, sur Radio Libertaire, il y a l'émission Le Tour du Monde Libertaire. Je crois que c'est le quatrième, dernier lundi du mois, je ne sais plus, il faut regarder. Mais voilà, il y a l'émission Le Tour du Monde Libertaire qui fait le point sur le numéro qui paraît juste après du Monde Libertaire. Donc voilà. Revenons un peu à ce que tu nous disais là, Solène. T'as parlé de Némésis, t'as parlé de Eros. Alors, si le collectif Némésis, on vient d'en parler un petit peu, maintenant il est quand même connu pour tout un tas de mauvaises raisons. Il y a le collectif Eros qui est un tout petit peu moins connu, enfin même carrément moins connu, je pense. On en a un peu parlé. Il me semble qu'il est moins connu, tu fais la...
Oui, non. Vas-y, Solène, mais on en a parlé sur l'émission sur l'homonationalisme.
Tout à fait. Mais est-ce que, voilà, déjà, je pense que Eros, c'est bien d'expliquer ce que c'est. Peut-être que Solène, si tu peux le faire, je vais te laisser la parole. Mais voilà, au final, Eros, effectivement, c'est un collectif de soi-disant LGBT patriotes. Enfin, c'est un peu... C'est une caution LGBT, si on peut dire.
Même pas LGBT, hein, oui. Parce qu'il faut bien penser à faire sauter le T. Eros, oui, c'est le pendant homme homosexuel de Némésis, quoi. un collectif. Moi, je n'y ai vu que des hommes. Hein. Je ne sais pas s'il y a des femmes lesbiennes. J'ai pas eu d'impression. Hein.
Comme femme, il y a Mila.
Il y a Mila.
Ah oui, bon.
Attention. Attention.
ça rigole pas. Hein. Pardon. Il y a peut-être Mila, mais en tout cas, ça m'a paru quand même plus ciblé sur les hommes gays qui sont... Qui en substance refusent leur assignation à la communauté LGBT parce qu'ils sont transphobes. C'est un peu résumé, hein, non, mais dans les faits, c'est ça.
Qui est raciste.
Et c'est des personnes qui reprennent à leur compte tout un tas de théories de l'extrême droite, mais qui permettent, comme Némésis apporte une caution féministe, entre grosses parenthèses, et Rose vient apporter une caution homosexuelle. Enfin, honnêtement, je pense que Eros, ils ont une certaine difficulté à se positionner, hein, même dans leur propre camp, ils sont loin de faire l'unanimité. Il représente quand même une position qui est assez qui est relativement minoritaire, quoi, hein, et nous on a eu l'occasion de faire leur rencontre pendant le Nice Rainbow Festival où quand même on marche sur la tête, hein, parce que c'est un collectif d'hommes gays qui vient attaquer un événement LGBT qui se tient pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et les LGBT-phobies. C'était, de ce qu'ils avaient l'air de dire, c'était leur première grosse action, et donc ils sont venus au festival avec des caméras cachées. Ils ont filmé des extraits de show drag et des extraits de discussions avec des personnes qui étaient sur les différents stands, dont mes collègues du planning familial. Puis ils sont rentrés chez eux bien contents et ils ont monté un truc complètement mensonger où ils coupent des phrases en plein milieu et ils collent avec d'autres phrases pour faire dire aux gens des choses qu'on n'a jamais dites, quoi. Hein. Et puis ils sont allés publier ça et voilà, que ça est repris par Frontières, par ceci, par des représentants du RN, je crois aussi. Leur action à Nice, elle a eu des conséquences pour eux, puisque le lendemain, ils se sont retrouvés avec une plainte de la mairie de Nice, une plainte du maire de Nice de l'époque, Christian Estrosi, du centre LGBT, du planning familial et de deux librairies. Donc bon, je pense que ça les a un peu calmés, parce que nous, on ne les a plus revus après ça.
Ouais, ouais, mais on peut rappeler, ils sont pas beaucoup, hein, ils sont 5 à tout casser.
Encore moins que Némésis, quoi.
Ouais, ils sont à 5-10, et en fait, c'est surtout caractérisé autour du président de Eros, donc Johan Power. Est en fait très très offensif, et en fait sa technique un peu de compromat, donc de caméra cachée, de ses méthodes propagandistes, il l'utilise depuis assez longtemps. Notamment il y a sa chaîne YouTube où il fait des sortes d'immersion en caméra cachée, notamment avec des hommes gays musulmans, où il leur fait, il les manipule un peu pour leur faire dire des trucs, et en plus ils coupent, tu vois, après.
Oui.
Et donc ça, c'est vraiment leur technique signature de propagandiste, en fait. C'est des propagandistes assumés.
Oui, c'est toujours la même chose. C'est beaucoup plus facile de dire un mensonge que de rétablir la vérité après, quoi.
C'est
hein.
Ça.
Oui, ça demande beaucoup plus de travail derrière. De démentir les imbécilités qui racontent, quoi.
Oui, surtout que ces imbécilités, elles conduisent en fait au harcèlement en ligne, au harcèlement physique, à la fin de certaines subventions. En fait, c'est ça le risque, c'est de créer.
Oui, c'est ça. Bah, comme ça s'est passé là très récemment pour le planning de Carpentras, ouais. où le le maire fraîchement élu du Rassemblement National a supprimé 3000 euros de subvention au planning de Carpentras sous prétexte que on avait un agenda politique et qu'on mettait qu'on mettait des mauvaises choses dans l'esprit des enfants. Et en fait, Eros, comme ce maire RN de Carpentras, comme tout le champ médiatique d'extrême droite, ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils vont aller chercher les choses qui font pas consensus. Ils vont aller chercher les choses qui peuvent inquiéter les gens. C'est un fait que dans notre pays, il y a beaucoup de transphobie. Dans tout le champ politique, hein, dans tout le champ politique, dans tout le champ médiatique, la question des transidentités, c'est une question qui crispe beaucoup de monde. Et du coup, c'est des cibles faciles pour eux, pour nous discréditer et eux gagner une adhésion de personnes qui parfois adhèrent à ce qu'ils disent simplement parce que elles ne maîtrisent pas le sujet et qu'elles comprennent pas, et que beaucoup de gens, quand ils comprennent pas, leur premier réflexe c'est le rejet. Et c'est pareil avec l'éducation à la sexualité. Les VARS, en général, c'est un large sujet. Expliquer pourquoi c'est important et pourquoi c'est nécessaire et pourquoi ça aide, ça prend du temps. Ça prend le temps d'expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ces séances, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants à exprimer leurs émotions, à être capable de dire non, d'exprimer leur consentement, à mieux relationner les uns avec les autres, à mieux s'écouter, etc. Mais bien sûr, quand des personnes qui sont pas du tout au fait de ce genre de réflexion entendent, il va y avoir des séances d'éducation à la sexualité dans l'école de leurs enfants, ils sont inquiets et c'est normal. Et nous, au planning, c'est notre travail d'expliquer, de montrer en quoi c'est utile, de rassurer aussi les parents inquiets. Mais ça, on peut pas le faire quand on a des ZIG comme Eros et compagnie qui font de la désinformation et qui court-circuitent en fait notre travail. Et du coup, au lieu de se concentrer sur l'exécution des séances des VARS qui sont quand même prévues dans la loi depuis 2001, se retrouve à faire de longues justifications pour expliquer que non, on n'apprend pas la masturbation à des enfants de 5 ans. Non, on donne pas aux collégiens des forfaits pour aller changer de sexe. Enfin, on se retrouve à devoir argumenter face à des arguments complètement fantaisistes. Et c'est un temps qui n'est pas utilisé pour faire nos actions et pour expliquer de manière sereine aux gens notre travail, quoi.
Ouais, surtout que ces séances d'Evars, elles sont dans la loi, comme tu as dit, mais elles sont encore très peu mises en place, faute de moyens et de temps dans les programmes. Et je pense qu'il faut qu'on rappelle que ces séances sont essentielles pour protéger les enfants. Et on l'a bien vu récemment, donc le cas à Paris, Île-de-France, avec les scandales, les affaires de pédocriminalité qui sont sorties dans le périscolaire. Moi, j'ai lu plusieurs articles, et vraiment, ce qui a été central pour mettre fin à ces violences systémiques qui duraient dans le temps, c'est le fait que les petites et les petits ont pu exprimer à leurs parents les agressions qu'ils vivaient, les décrire parfois très précisément, et aussi que les parents puissent, notamment ce que soulignent certains de ces articles, recevoir la parole des enfants et les accompagner, accompagner dans la plainte. Et c'est ce qui a permis de
suspendre. Et nous, ça nous arrive aussi, et c'est aussi l'intérêt des séances des VARS, qui sont d'autant plus quand elles sont menées par des associations et pas par le personnel enseignant ou le personnel de l'école, c'est que ça crée un espace pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes adultes, où ils se sentent plus en sécurité de parler de situations qu'ils ont pu vivre. Ça arrivait plusieurs fois que nos animateurs ou nos animatrices fassent des signalements à la direction de l'école, à la PJJ, suite à des témoignages recueillis pendant les séances ou après les séances. Et donc nous, on fait tout ce travail-là pour permettre d'endiguer le fléau des violences contre les enfants et notamment des violences sexuelles. Et derrière, la proposition de l'extrême droite sur ce sujet, c'est quoi ? C'est rétablir la peine de mort. Bon, bah super, et maintenant on va devoir monter un argumentaire et un plaidoyer pour expliquer que non, la peine de mort, c'est complètement inutile. C'est une réponse profondément enfantine à un problème qui est systémique. Bon, bah voilà, il y a des gens qui font du mal aux enfants, bah on les tue et bon, problème réglé, c'est magique. Bah non, ça se passe pas comme ça. Surtout dans un pays comme la France où on a quand même un rapport très particulier à la pédocriminalité, où pendant très longtemps ça a été le grand aveuglement. Et des associations comme le planning familial, mais comme la Fondation des Femmes, comme Nous Toutes, etc. Ça a été les premières associations à tirer la sonnette d'alarme, à demander une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, à s'engager auprès des victimes, à les accompagner, à recueillir la parole. Et c'est nous qui sommes accusés de mettre en danger les enfants. Pendant que eux, c'est au premier fait divers, ils se réveillent pendant un mois, ils disent n'importe quoi, et puis après, ça a plus de visibilité médiatique, donc ils passent à autre chose. Le vrai problème, c'est que dans une certaine mesure, leur discours qui à nous paraissent complètement fantaisiste et absurde, ben ils prennent dans la société.
C'est ça qui est dangereux.
Aussi, grâce à toute la visibilité qu'ils ont dans les médias, quoi.
Mais il y a ce que disait la j'ai oublié son nom de famille et son prénom, mais la personne en charge du contrôle des lieux de privation de liberté, cette dame dont je suis très admirative, mais malheureusement, je suis désolé pour elle, j'ai oublié son patronyme, disait il y a un vrai besoin, il y a une vraie envie de vengeance dans le pays que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a ce truc là où il y a toute une partie du corps social qui veut se venger sur une autre, enfin
oui, de c'est faire ça, des mais victimes. C'est une histoire aussi vieille que le monde, hein. Y a un côté, bon, bah pour exorciser les problèmes, on va déchaîner une violence collective qui peut prendre la forme de la peine de mort, par exemple. Et puis après, on se sera défoulé, on ira mieux, on soufflera, on sera plus serein, et tout ira bien. Oui. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que on a envie de se venger ? Est-ce qu'on a envie de faire payer les pédocriminels ? Ce que je peux entendre, hein, ce que je peux entendre, j'ai pas plus de sympathie que n'importe qui pour ces personnes-là. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, la vengeance et la violence cathartique, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est protéger les enfants et faire en sorte que les violences cessent. Ouais. Moi, je pense que c'est la deuxième option sur laquelle on devrait se concentrer. Mais on ne peut pas, parce que c'est en permanence court-circuité par les coups de com' de l'extrême droite, quoi. Hein.
Je ne sais pas si tu as vu, mais donc Darmanin a fait un plateau, je ne sais plus sur quelle chaîne, et dans le panel, alors ils adorent faire des panels et tout, mais il n'y avait que des hommes, des darons. Il n'y avait que des darons et Darmanin, dont on sait qu'il y a une plainte pour viol classé sans suite, si je dis pas de
bêtises. Mais oui, mais ça va parce qu'il s'est expliqué entre hommes.
Oui. Donc, ah oui, avec le président. Va. Oui, ça va.
Heureusement, hein, parce que sinon, oui. Oh là là.
Ah bah oui, mais il faut expliquer en entre hommes parce que bon, sinon, hein, comment on va faire, hein. Je ne sais pas.
Oui, ouais, et puis de toute façon, les gonzesses, elles sont trop émotives, ça sert à rien de leur expliquer, donc on va régler ça entre bonhommes. Et c'est ça, hein.
C'est terrible.
Finalement, ce que ça dit, c'est ça, quoi.
C'est terrible, hein. On en rigole, hein, bien sûr, on précise au cas où, mais non, mais c'est assez terrible, c'est-à-dire qu'on enlève toute une partie, en fait, de la parole des personnes concernées, donc les personnes femmes et les enfants. Alors, on peut rappeler qu'il y a quand même un super collectif qui s'appelle le collectif Enfantis, qui a réussi à faire une grande manif nationale, donc c'était quoi, c'était... Oh, j'oublie.
C'est lundi dernier.
Ah, ils ont refait un truc.
Pardon. De... Il y a eu le. Je crois que c'est le 30 mai, la manifestation pour les droits des enfants. Et après, il y a eu tous les rassemblements lundi dernier. Pardon. Okay.
Non, il n'y a pas de souci. Je n'avais pas suivi leur actualité récemment.
Ouais, oui, bah du coup, là, il y a eu.
En janvier, je crois. Janvier, février.
À l'automne, je crois que c'était le 25 novembre, à l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Il me semble que c'était ça, Johan. Ouais. Mais effectivement, c'est intéressant de rappeler ce que fait ce collectif enfantiste. Alors, je ne le connais pas plus que ça, mais bon...
Moi, j'y étais. Enfin, j'étais dans la manif et je connais des gens dedans.
Ok. Vous vouliez continuer peut-être sur ce sur quoi vous étiez en train de discuter?
Ouais, continue Solène sur tout ce qui est des darons qui ont ce truc de si tu touches à mon gosse, en fait je vais te traquer, je vais te tuer, l'État est défaillant, et en fait il y a tout ce truc de ce discours généralisé dans la société de dire l'État est défaillant. Oui, mais pourquoi il est défaillant?
Oui, mais c'est ça, et l'État est défaillant, ok, mais venez, on s'assoit et on réfléchit à quel niveau d'État elle est la défaillance. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de discours contre la justice, ah, la justice elle fout rien, nanani, nanana. Mais en même temps, et on a Darmanin qui dit on va traiter 70 000 dossiers en un mois, ça nous fait doucement rire, parce que pourquoi est-ce que la justice elle est pas en capacité de traiter ces dossiers dans un délai correct? Parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'il y a des coupes budgétaires en permanence, qu'on va doubler, tripler le budget des armées, et que derrière on va enlever de l'argent à la justice qui se retrouve démunie face à la quantité de dossiers, surtout sur la question des violences sexuelles sur les enfants, parce qu'il y a eu une certaine forme de libération de la parole, et que donc comme il y avait eu avec nous toutes avec MeToo pardon en 2018, bah il y a plus de gens qui prennent la parole, donc il y a plus de dossiers à traiter et il y a de moins en moins d'argent. Donc c'est pas bien sûr, il y a une responsabilité judiciaire dans le fait que ça avance pas et dans la manière dont sont traités ces dossiers, mais il faut pas oublier que avant tout c'est un choix politique du gouvernement actuel que d'enlever des moyens à la justice, aux associations, à tous les acteurs qui pourraient accompagner et faciliter le parcours des victimes et la résolution de ces violences systémiques, quoi.
Et surtout, il faut pas oublier, alors je suis pas forcément pour la psychiatrisation voilà et tout, mais le secteur de l'accompagnement dans les maladies mentales, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais dans les syndromes, les troubles psychologiques, c'est le dernier secteur de la santé en France. C'est le secteur le plus sous-financé de la santé en France. Dieu sait, enfin bon, on est sur Radio Libertaire, mais Dieu et la Providence sachent que et même nous-mêmes, nous toutes, on sait qu'on en a besoin, quoi. Que ce soit les travailleurs, travailleuses, les personnes victimes de violences, quelles qu'elles soient, de violences sexistes et sexuelles, de la pédocriminalité.
Bien sûr. Et là, maintenant, ils nous font tout un grand charivari en annonçant des mesures, des machins. Bon, on va remettre la peine de mort pour l'extrême droite, pour la droite centriste. On va mettre en place telle et telle chose. Mais déjà, avant de penser à être encore dans la surenchère pénale, sécuritaire, etc., déjà, il faudrait faire appliquer la loi, quoi.
Puis...
Déjà, c'est avec les appareils qui existent, on pouvait faire appliquer la loi, avoir des signalements qui ont des conséquences. La certitude que les personnes qui commettent des abus sur les enfants, elles soient identifiées et qu'elles soient mises en état, hors d'état de nuire. Les outils, ils existent déjà, en fait. Mais s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de vision globale du problème... Eh ben, ça se réglera pas. C'est aussi pour ça que nous, on demande une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, qui prenne aussi en compte la question des violences sur les enfants et qui prenne aussi en compte l'inceste, qui est toujours le dernier des sujets et qui est la cible d'un grand aveuglement collectif. C'est des choses dont on veut pas parler, qu'on veut pas regarder en face. Et c'est cet aveuglement-là qui permet que ces choses-là, elles prolifèrent et qu'elles continuent, quoi.
Oui, oui, et puis j'ai un peu perdu le film, mais c'est cette question-là... De faire cesser les violences, en fait, elle va... alors déjà, oui, voilà, il y a ce côté où que ce soit l'extrême centre ou l'extrême droite, en fait, c'est des contre-feux. Enfin, pour les gens qui nous écoutent, sachez-le, ça veut dire qu'ils mettront pas plus d'argent, ils régleront pas plus le problème, et oui, il y aura, si il y a la peine de mort pour la pédocriminalité, il y aura 3-4 personnes mises à la guillotine tous les ans. Mais dans le reste du temps, les enfants continueront de se faire violer dans toutes les sphères de la société, quoi.
Et, oui, c'est ça. Et puis, ouais. Ce truc de la peine de mort, ça permet aussi de ne pas nous interroger nous-mêmes, quoi. Ouais. De ne pas interroger la société, de ne pas interroger... l'imaginaire qu'il y a autour de ça, parce que c'est les mêmes personnes qui là demandent la peine de mort pour les pédocriminels qui ont pris fait et cause pour Patrick Bruel, qui continuent à écouter Claude François, parce que après tout, il n'y a pas de souci, qui ont protégé tout un tas de célébrités qu'ils aiment bien, sous prétexte que il fait du mal à des enfants, mais il chante bien, donc c'est moins grave. Donc j'aimerais bien voir ils arrivaient à rétablir la peine de mort dans ce cas-là, quelle tête ils vont faire quand sur la guillotine ce sera Patrick Bruel ou Éric Zemmour.
Oui.
Donc ça montre bien où même leur père, leur frère, leur mari, parce que les pédocriminels, c'est ça.
Oui.
C'est pas Fourniret, non, c'est des gens qu'on croise dans la vie de tous les jours.
Oui.
Et c'est ça qui est pas interrogé par le fait de dire « Ah, peine de mort, ça va être super ». Oui, mais quand ce sera ton père, tu trouveras ça moins super, quoi.
Ouais, et puis surtout je reprends cette idée du plateau qu'entre hommes et d'hommes qui demandent toujours plus de violence pour régler tous les problèmes. Donc au-delà du côté complètement virilisme, masculiniste, patriarcal de ça, c'est que en fait ils utilisent, enfin ces hommes-là, que ce soit sur le plateau ou dans toute la société, ils utilisent aussi cette peine de mort-là, ces propos-là, pour cacher la violence des hommes, en fait, des pères, et des pères de famille. et des pères de famille qui font les plus grandes dingueries.
Exactement. On ne peut pas militer pour la famille nucléaire, pour l'autorité absolue du patriarche sur sa femme et ses enfants, pour le maintien du patriarcat, et derrière prétendre qu'on en a quelque chose à faire des violences sur les enfants. Ça marche pas, en fait.
Bah, eux, ça les arrange, parce qu'en fait, ça invisibilise leur violence. C'est-à-dire, c'est les autres, c'est l'étranger, enfin, c'est l'altérité, c'est des choses abstraites, mais c'est jamais eux, en fait. Et surtout, enfin, l'ironie terrible d'en parler avec notre ministre de la Justice, quoi, qui, bon, c'est quand même compliqué, mais je pense, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais on ne peut que conseiller aux gens, et en particulier à ces pères-là, d'écouter les victimes, en fait, de lire. Enfin, moi, je sais que ça a eu un impact dans ma construction en tant que personne masculine et tout quand j'étais ado. Bon, il y avait MeToo et tout, et que ça a vraiment, enfin, impacté ce que je suis aujourd'hui, quoi. Et que dans toutes les affaires, par exemple, Depardieu. Je me souviens du plateau de, bon, désolé, Hakim, mais de Mediapart.
Pourquoi désolé?
Non, mais on fait la blague à chaque fois.
Quelle blague?
Non, mais
excuse-moi.
Je lis beaucoup Mediapart. Et du coup.
C'est pas un problème de lire Mediapart. On en est critique, mais on reconnaît qu'il y a des bonnes enquêtes qui sortent là-bas.
Hein, je sais, je te taquine. Mais ouais. En tout cas, sur ça, je trouve qu'il y a un super travail. Et donc, il y avait. Ouais. Le plateau de PPDA, donc avec les victimes de Patrick Poivre d'Arvor, il y avait plus de 10 personnes dans mes souvenirs qui prenaient la parole, et celui de, comment il s'appelle, Depardieu aussi. Et je pense que c'est essentiel politiquement pour en fait réhumaniser les gens et
bien sûr.
Et faire en sorte que et je pense que peut-être j'ai trop confiance en l'humain, mais que quelqu'un ayant de l'humanité ne peut pas, après avoir écouté ça, continuer à silencier ou à adresser ce genre de problème comme il le faisait avant, quoi.
Oui, on aimerait bien, hein, et c'est vrai que moi je trouve que sur la question des violences sexistes et sexuelles, effectivement, Mediapart fait du bon travail, dans le sens où ils font le travail qui n'est pas fait dans les autres titres de presse avec le même niveau de visibilité, on va dire. Mais ça n'empêche pas l'extrême droite, en fait, elle vient derrière ça fournir des excuses, en fait, aux gens, parce que les personnes concernées vont dire il y a un problème de pédocriminalité dans la société française. D'un côté, il va y avoir les médias un peu consciencieux d'un point de vue journalistique, les associations féministes qui vont dire les raisons, c'est telle et telle et telle chose. Il faut du budget, il faut investir dans tout un tas de dispositifs pour endiguer le phénomène. Et ça, c'est compliqué de comprendre, d'écouter, ça prend du temps, etc. Et de l'autre côté, on a la solution prémâchée, bah, on va les tuer, et puis voilà, ce sera réglé. Et du coup, bah, je pense que, outre l'humanité des gens, il y a aussi l'extrême droite, elle profite un peu de la paresse intellectuelle, quoi. Hein.
Ouais, sachant que tout le monde n'a pas le temps de... c'est comme bien manger, en fait, bien s'informer, c'est que quand tu fais... c'est quand tu fais les 3-8... tu rentres, t'es fatigué, tu veux te coucher et t'as pas le temps de te préparer à bouffer, et t'as pas le temps de regarder une heure de
podcast. De regarder 2 heures d'émission Mediapart.
Oui, voilà, exactement. C'est ça, c'est 2 heures minimum, 2h30. Et puis même si tu avais le temps, tu n'as pas forcément l'énergie mentale pour le faire. Donc, bien que tout soit en libre accès, en tout cas sur les émissions YouTube, tout est en libre accès et tout. Mais même les podcasts aussi, c'est en libre accès en grande partie sur leur plateforme. Mais ouais, en fait, c'est tout le souci de ce, c'est la question que je voulais te poser de comment, en tout cas pour le planning, pour les gens qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants, contre aussi les LGBTQIA-phobies. Comment, alors c'est la question à 10 millions d'euros, mais on arriverait à se démarginaliser, à se décornériser, et parce qu'en fait on les médiatiquement on est, en fait les sujets sont audibles mais nous ne sommes pas audibles. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, je vois. Disons que ce qui compte aussi, c'est la période historique dans laquelle on est, le climat politique du pays et tout ça. Bon, il y a des choses contre lesquelles c'est difficile de lutter. Nous, les solutions pour régler le problème des violences sexistes et sexuelles, des violences sur les enfants, etc. Les solutions, concrètement, on les a. Pas moi, personnellement, mais le projet de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, il est prêt. Okay. Les propositions, elles existent dans l'accompagnement, dans la réception de la parole, dans la manière dont la justice peut traiter ces dossiers-là, dans les VARS, la prévention dès le plus jeune âge, pour que tout le monde soit au même niveau d'information sur le consentement, les sexualités, les risques de violence, etc. Donc les solutions, elles existent, elles sont là, les féministes, ça fait des siècles qu'elles travaillent dessus. Donc si on venait nous voir et qu'on nous demandait c'est quoi vos solutions pour régler ce problème, on pourrait dérouler. Le problème, c'est que d'une part, il y a personne qui vient nous voir pour nous demander quelles sont les solutions qu'on propose, et surtout, on n'a pas d'argent. C'est la réalité, hein. On n'a pas d'argent. Pour des raisons idéologiques, la plupart des plannings familiales, des plannings familiaux se sont construits sur des subventions publiques. Mais là, étant donné que le climat politique change, ces subventions publiques, elles diminuent comme peau de chagrin. Alors, pour la droite, c'est du fait de leur obsession à baisser les coûts. Et voilà. Et pour l'extrême droite, c'est pour des raisons idéologiques. Mais en tout cas, on a de plus en plus de difficultés à obtenir des financements et on est de manière générale dans le planning familial, mais dans beaucoup d'associations, on n'est pas très familier avec le mécénat privé. Oui. Et on l'a toujours évité pour des raisons évidentes d'indépendance. Mais du coup, là, on se retrouve à avoir des sources d'argent qui se tarissent les unes après les autres. Ouais. Donc, et ça touche tout le milieu associatif, quel que soit ce que l'on porte. Là, il y a plus d'argent public. Enfin, il y a de moins en moins d'argent public, et c'est de plus en plus difficile de l'obtenir. Et malheureusement, on n'est pas financé par des milliardaires. C'est pour ça que on a besoin en fait de soutien citoyen, quoi. Ouais, donc j'en profite pour vous dire de adhérer et de faire des dons au planning familial de votre département, parce que d'autant plus actuellement, c'est vraiment très important pour qu'on puisse continuer, d'une part, à accomplir nos missions et à exécuter nos actions, etc. et d'autre part, à avoir suffisamment de temps et de moyens pour continuer notre plaidoyer et pour devenir audible, quoi.
Oui, on appelle aussi à l'engagement, hein, je pense.
Oui, voilà, si vous n'avez pas d'argent, donnez de votre temps, quoi.
Ouais, à augmenter les solidarités locales et nationales. Et puis, je pense, il y a aussi un peu comme ce qui s'est passé avec les caisses ouvrières, en fait, qui sont devenues ensuite la sécurité sociale. Peut-être que l'espoir est là, hein, et que d'un financement privé, socialisé d'une partie des salaires, et de l'imposition et de la fiscalité, on arrivera à une pérennisation, à une sécurité sociale élargie, une sécurité sociale pour les droits reproductifs, sexuels et contre les violences sexistes et sexuelles et pédocriminelles.
Tout à fait.
Ouais, mais oui.
D'autant plus que c'est pas si cher que ça, hein, quand la loi intégrale a été chiffré, on demande 2 ou 3 milliards.
Ouais.
Au niveau du budget d'un État, c'est franchement pas grand-chose, quoi.
Ouais, le budget de l'État français, c'est 1 000 milliards, dans mes souvenirs.
Plus, c'est 2 000 milliards.
Okay.
Le PIB, je parle du PIB, le budget de l'État, tout ça, après, je sais pas trop, excuse-moi. Non, le PIB français, c'est 2 000 milliards, mais la dette française, c'est 3 000 milliards. Sachant que, quand Macron est arrivé aux affaires, c'était 2 000. Donc, il a augmenté la dette, 2 000 milliards, avec ses coupes budgétaires incessantes, le Mozart de
et
la finance.
Cadeaux.
Ouais, voilà, ces multiples cadeaux aux grandes entreprises notamment ont fait que la dette a explosé, tout comme c'était le cas sous Hollande, Sarkozy. Donc c'est là aussi qu'on voit que ces Mozart de la finance aggravent la dette, appauvrissent l'État en fin de compte et appauvrissent tout un tas de budgets, dont celui des associations féministes, des associations qui luttent contre les violences sexistes, sexuelles, etc. Donc effectivement, c'est intéressant de rappeler ça.
On peut dire que, peut-être tu pourras réagir sur ça, mais on parle de la vie des gens, en fait. On parle de gens qui meurent parce que elles peuvent pas avorter, de gens qui meurent parce que elles peuvent plus subir. Et
De femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint et de leur ex-conjoint. De femmes aussi qu'on oublie souvent, mais qui, face aux violences et au harcèlement, se suicident. Celles-là, elles font pas partie du compte des victimes de féminicide, sans parler des femmes et des enfants qui se retrouvent handicapés à vie par conséquence des violences qu'ils ont vécues. Enfin, voilà quoi. Ça a, selon moi, beaucoup plus d'importance que notre dette, quoi.
Oui, c'est des vies, et puis c'est aussi dans quel monde on veut vivre. Hein. Je pense que moi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Enfin, j'ai plus envie de vivre dedans, comme une grande partie des gens, et même, je pense, une partie des gens de droite qui se disent, ah, mais ça a toujours été comme ça, mais c'est comme ça. Mais c'est faux. C'est faux, et c'est par la lutte, comme on disait avec Emma, à l'émission dernière, la lutte paye et l'histoire du planning familial le montre matériellement, quoi.
Totalement.
Tu voulais continuer peut-être,
non,
Ivan ?
Vas-y, je t'en prie.
Alors, midi passé de 58 minutes, donc vous êtes bien dans l'émission Médias et Antifascisme, hein, sur Radio Libertaire, 89.4 FM en Ile-de-France. Je dois dire qu'on a fait un grand tour d'horizon, il me semble, et tout à fait enrichissant, important extrêmement important. Et donc, de ce côté-là, moi j'aimerais rebondir sur un certain nombre d'éléments. Alors le premier, c'est effectivement la réponse pénale à
des crimes pédocriminels, des crimes sexuels, sexistes, contre les enfants, etc. Oui. Alors effectivement, c'est un mantra hein, de l'extrême droite là, de vouloir de vouloir la peine de mort, etc. Mais effectivement, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Solène, ici, il y a une chose qui caractérise l'extrême droite dans ce genre de moment, c'est l'éphémérité. C'est-à-dire que effectivement, il y a une affaire qui tombe, un crime, comme ce qu'on peut voir avec le meurtre de Liana. Sitôt que, parce que c'est ce qu'on dit dans la presse, hein, une info en chasse une autre. Donc là, il y a la Coupe du Monde de foot qui commence. Je vous garantis que les médias vont assez vite passer à autre chose, peut-être pas aussi rapidement que ça, mais voilà. Puis il y a la guerre en Iran, puis il y a la guerre en Ukraine, et puis il y a plein de choses en fait. Les départs en vacances, la canicule. Il va y avoir tout un tas de choses et les médias vont gentiment, ils ne pourront pas parler de tout. Et puis en plus,
circuler, il n'y a rien à voir, quoi. On passe au sujet suivant. On verra s'il y a un prochain fait divers qui réanime l'emballement autour de la question. Mais de se questionner sur les systèmes qui permettent des faits divers comme le meurtre de Liana, malheureusement, la manière dont fonctionnent les médias actuellement le permet pas, quoi. Il faut être à la course à l'info, à ce qui est nouveau, voilà.
Absolument. Et alors, je vais faire un peu mon intellectuel de salon de coiffure là. Mais je rigole. Mais pourquoi ? Parce que c'est un peu comme, quand on avait reçu notre ami Karim Soinef en janvier 2025. Toi, tu t'en rappelles pas parce que t'étais pas là, Johan. Oui. Toi, t'es arrivé, t'as fait ta première émission avec nous juste après avec notre ami Thierry Vincent de Blast, oui, qu'on salue chaleureusement. Oui. Par ailleurs.
Force à Thierry et à tous les journalistes de gauche et d'extrême gauche. Qui luttent.
Oui, exactement.
Que ce soit dans le monde.
Exactement, qui font de l'idéologie et qui ne sont pas... Non, je rigole.
Continuez.
Voilà, c'est ça, continuez à faire de l'idéologie et à ne pas être neutre, c'est important. Blague à part, effectivement, quand on avait reçu notre ami Karim Soinef, à la base, on parlait de journalisme sportif, parce que vous avez peut-être remarqué qu'un certain nombre de journalistes sportifs, pour des raisons diverses, se sont obligés de bifurquer vers le politique, et ça donne des Pascal Pro, des Daniel Riolo, des Carl Olive, député très radical de... Carl Olive, c'est un ancien joueur de foot, ancien arbitre, ancien patron des sports de CNews, à l'époque ça s'appelait iTélé, et ancien journaliste de Canal+. Et pourtant, on voit l'abus que c'est, hein, très honnêtement, sans lui manquer de respect.
Pour Vagne.
Oui, comment ?
Ouais, vas-y, Solène.
Ça me faisait rire.
D'accord, oui. Et pour faire une petite aparté, les plateaux de médias et tout sont venus à un tel niveau d'autoritarisme quasiment stalinien que Christophe Barbier appelait quasiment à déchoir Karl Olive de son mandat de maire et de député parce que
il est monté sur
un capot de voiture pour fêter la victoire du PSG et ça méritait les fourches codines et la gémonie, quoi. Ce qui est une folie, enfin, parce qu'il est dans leur camp, hein.
Il a juste
monté sur un capot de voiture. Tout va bien.
C'est l'ensauvagement de la France.
Mais oui, Karl Olive s'est ensauvagé très très vite. Et c'est parce qu'il n'est pas assez raciste. Voilà.
Ouais.
C'est sa cause. Il a fêté là, une grande victoire avec des gens de toute origine et de toute couleur de peau confondues. Et voilà, ça l'a atteint, quoi. C'est terrible. Et je t'ai coupé, excuse-moi.
Non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais effectivement, c'est vrai que c'est quand même drôle, sachant que Karl Olive, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une buse, sachant que buse, c'est pas une insulte, hein. Donc, faut faire attention à pas insulter ou diffamer, évidemment.
On n'insulte pas.
Non, mais on va dire que c'est une truffe ou une quiche ou un guignol, tout ce qu'on veut. Non, mais pour rester dans la correction. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Karl Olive, c'est un profil d'homme politique absolument
absolument burlesque, parce que bon, alors il a une carrière professionnelle derrière lui, de footeux, tout ça, pas de problème pour nous, enfin a priori. Mais ce qui peut nous faire rire, c'est que c'est un député quand même macro. Déjà, c'est un carriériste, c'est quelqu'un qui est rentré aux Républicains. À l'époque, c'était l'UMP grâce à ses connexions dans le milieu du foot, parce que le foot et la politique c'est lié, enfin l'argent, tout ça. Le foot c'est politique, on le voit bien. La Coupe du Monde commence, voilà. Enfin, c'est une vitrine notamment pour les USA, pour bref, on pourra en parler pendant longtemps. Mais au-delà de ça, Carl Olive, c'est aussi un carriériste qui est passé des Républicains au parti d'Emmanuel Macron sans se poser de questions au moment où Macron est devenu président. Et c'est un député franchement radicalisé. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est très très proche des médias de Bolloré, parce qu'il y a travaillé. Hein. Alors à l'époque, c'était pas Bolloré qui tenait le groupe Canal+, qui comprend du coup notamment Canal+ et CNews. Mais enfin, il y a travaillé avant que Bolloré arrive. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Canal+ avant Bolloré, c'était déjà pas forcément ce qu'il y avait de mieux. Mais Bolloré n'est pas arrivé comme ça, comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Mais enfin, bon, bref, ça c'est une autre affaire. Ouais. Et donc, Carl Olive, effectivement. C'est quelqu'un qui passe un temps certain dans les médias de Bolloré, qui fait des propositions fantaisistes, qui a été condamné d'ailleurs par la justice pour prise illégale d'intérêt parce qu'il a embauché son fils sans lui faire passer de concours de fonctionnaire à la mairie de Poissy quand il était maire. Et donc ça c'est illégal et donc il a été condamné pour ça. Et je crois qu'il y a encore une autre affaire qui va arriver. Carl Olive, c'est un disciple de Sarkozy, Balkany, de gens de vrais voyous, de la voyoucratie française. Dans tout ce qu'elle est la voyoucratie institutionnelle, la voyoucratie présidentielle dans le cas de Sarkozy, enfin bref, et puis en plus, il y a une question.